Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Cette semaine, les poètes vont disparaître pour laisser la place à Tempo Poème. Tempo Poème, c'est l'émission que ponctuellement nous réalisons ici à Radio Occitanie pour annoncer un spectacle vivant qui a lieu à Toulouse, à la Maison de l'Occitanie, l'Oustal, la rue Malcousinat, près de la station Esquirol. C'est Francis Pornon qui va introduire le Tempo Poème.
C'est depuis fin 2018 que Christian Saint-Paul, Svante Svaström et moi-même, Francis Pornon, avons entamé une série de présentations de poètes à l'Oustal d'Occitanie, ce pour pallier un manque. Si la poésie est conscience à vif, exigence et sincérité, enfin résistance, cela se confirme bien aujourd'hui, où la puissance médiatique tente à imposer une parole unique. Et le voyant Rimbaud voyait juste, en voulant donner un sens plus pur aux mots de la tribu, ainsi que le préconisait Mallarmé. Grâce à la bienveillance de Convergence Occitanie, on l'a déjà dit, l'événement a lieu à la maison d'Occitanie, l'Oustal, comme on dit aussi, rappelant ainsi ce que la poésie européenne doit aux troubadours et aussi la place que Toulouse, capitale des Jeux floraux depuis 7 siècles, peut tenir dans la poésie mondiale. Ont ainsi été présentés au cours des 10 jours de Tempo Poème Andrea Genovese, Christian Saint-Paul, Svante Svaström, Claude Barrère, Francis Pornon, Capitaine Slam, Franck Bardot, Casimir Pratt, Elisabeth Aragon, Bruno Ruiz, Béatrice Bouffil, Yves Charnay et Alain Sur Garcia, ce avec la participation et l'aide de divers autres poètes, comédiens et musiciens. Cette série poétique se poursuivra durant l'année scolaire à raison de séances bimensuelles, la prochaine avec André Prodhomme les 5 et 7 décembre. Nous sommes heureux de présenter maintenant Muriel Modelli, dont je cite ces quelques mots. Écrire de la poésie aujourd'hui relève d'un choix. Un choix délibéré à contre-courant, des injonctions à la performance, à la réussite de tout dessin, même culturel. Un choix détonnant dans un monde qui se sert de la langue pour imposer une lecture univoque de la société et de ses règles. Un choix courageux, enfin, parce que le poète sait que sa parole sera peu entendue. Ce Tempo Poème est enregistré comme les autres sur Radio Occitanie 98.3, diffusé en direct le mardi précédent à 14h, soit maintenant, et en différé à 20h, le jeudi même, jeudi prochain, jeudi de la présentation publique à l'Oustal. Il sera accessible ensuite de façon pérenne sur le site www.lespoètes.site pour écouter les émissions. Merci.
Alors, c'est Muriel Modelli, donc, qui est le centre de ce Tempo Poème du jeudi 19 octobre à 18h30 à la Maison de l'Occitanie, 11 rue Malcousinat, à Toulouse. Muriel Modelli, elle vit à Toulouse, où elle exerce le plus beau métier dont peut vouloir un poète, qui est celui de bibliothécaire. Et elle perpétue ainsi, sans le savoir peut-être, la tradition toulousaine qui veut que les bibliothèques soient animées par des poètes. Il y a eu à Toulouse des bibliothécaires qui ont laissé leur nom dans la littérature, comme Pierre Trénard. Pierre Trénard qui a été à la bibliothèque universitaire, c'est le conservateur en chef de la bibliothèque universitaire, et Monique Lys Cohen, qui était à la bibliothèque du patrimoine de la ville de Toulouse, qui est grand auteur et grand poète et une grande amie de notre émission. Alors, Muriel Modelli, elle officie dans cette dernière prestigieuse bibliothèque de la rue du Périgord à Toulouse. Alors, elle est venue de l'île de la Réunion où elle est née à Saint-Denis. Elle se fait connaître en publiant dans les revues. Puis elle fait paraître des livres poèmes. Alors le premier, je crois que c'était Pensée Maillée, hein, Maillée, en 2012, Je te vois en 2014, Tu écris des poèmes en 2017, c'était aux éditions du Cygne, et puis Rester debout au milieu du trottoir aux éditions Contre-ciel en 2014. Sur la table, aux éditions numériques Gazac, 2016, et Feu de tout bois, d'Élie Buissonnier, que nous avons présenté à Radio Occitane. L'émission Les Poètes, avec un tiré à part de la revue Nouveau Délit, et Radicelle, avec des photographies de Vincent Motard à Vargues et une préface de Dominique Bedou. C'était aux éditions Tarmac. Feu de tout bois. Avec des illustrations de Sophie Vissière. C'est une suite de poèmes écrits dans une langue simple et percutante, abordant sans emphase, comme par inadvertance, les constats sociaux, philosophiques, sans concession à la dure réalité de notre monde, qu'elle révèle d'ailleurs à sa fille dans ce beau texte. À l'instant même, dit-elle, où la claque nous pousse au premier cri, sache qu'à cet instant précis, des doigts invisibles enfoncent dans notre gorge une gomme. Mais ne se lamente pas et ramène à l'essentiel. Quel est l'essentiel pour Muriel Modelli? Bien, l'amour. L'amour, sache ma douce enfant, que je veux tant remplir, que tout s'estompe, l'amour est une éponge qui fait place naître pour d'autres. Et même si l'arche n'empêche pas l'engloutissement, elle ne s'abandonne pas au défaitisme. Vivre au fond n'est pas bien compliqué, dit-elle, il suffit de s'en tenir aux mots du jour. Il faut composer, décomposer, recomposer, une croix après l'autre, l'empilement des faits. Un souffle bien maîtrisé, une langue sûre, qui dessine les contours obscurs et flous de notre monde, du monde convenu, avec l'habileté de la mère douce qui sait conduire ses enfants sur les bons chemins. Et un ensemble de poèmes donc qui se rangent dans ce que notre ami regretté, très regretté, Michel Cozem, recherché dans les années 70 que nous avons connues, nous, Francis Pornon et moi-même, une poésie, disait-il, à l'imagination créatrice fondée sur le réel. L'imagination créatrice fondée sur le réel, voilà, c'est cette voix donc qu'il incarne, cette voix de Muriel Modelli, qui publie également Radicelle. Alors c'est important ce titre, Radicelle. C'est un livre avec des photographies qui sont superbes, hein, de Vincent Motard à Vergues. Et c'est un beau livre, donc par sa conception, bien sûr, parce qu'il y avait un papier épais. Ces reproductions photographiques qui sont d'une haute précision, hein, qui flamboient et qui creusent les ombres, tel un soleil qui traverse une journée. Et puis le préfacier, Dominique Baudou, qui, dès ses premiers mots, prépare le lecteur, justement, à ses poèmes, qui s'y révèle plus du sensible que de l'intellectuel. Plus du sensible que de l'intellectuel, sont de redoutables métaphores du monde hostile qu'il faut apprivoiser. Et combien cela est vrai aujourd'hui, plus que hier encore. Et ces poèmes, donc, c'est des poèmes de combat, c'est le combat de Muriel Modelli. Et l'enfance qui la ramène au créole, au son île de la Réunion, à l'histoire douloureuse du peuple, cette terre grosse de magnificence, nul ne peut effacer ses racines, fussent-elles des radicelles, d'où le titre, des radicelles, qui, bien que fines et fragiles, s'infiltrent plus sournoisement dans la mémoire. Avec Radicelles, Muriel Modelli est parvenu à sa pleine maturité. Il est certain, absolument certain, qu'elle va poursuivre ce ton de l'apogée. Nous sommes heureux de l'accueillir à Tempo Poème et de savoir que Toulouse compte parmi ses artistes de l'écriture, qui sont nombreux, quoi qu'on en dise, qui sont nombreux et puissants, la figure de haut vol, donc de Muriel Modelli, que nous allons entendre dans ses poèmes. Alors, citons dans sa bibliographie, je vais citer le dernier, Usez le bleu. Est suivi de Sous la peau, c'est aux éditions Au caillou des chemins, ça paru en 2020. Radicelle dont j'ai parlé, tu écris des poèmes, oui je crois que j'en ai parlé, aux éditions du Cygne, et le reste je crois que j'en ai parlé également. Voilà, nous écoutons donc Muriel Modelli.
Donc je vais vous lire plusieurs extraits de différents recueils. Et je commence immédiatement avec « Sur la table » paru aux éditions Kazakh en 2016. Les filles à l'intérieur ne débordent jamais. Elles chauffent, éclatent, on ne les entend pas. Elles sont ceintes, tendues, droites, dans les nervures du cerveau. Elles explosent, l'une ou l'autre, l'une et l'autre, dans de tout petits pop. Les filles du dedans sont solidement scellées aux os par des agrafes. Elles sont le continuum, les cris qui miaulent à l'envers de la peau. Elles sont les acouphènes noyés sous le désordre du dehors. Les claquements de talons qui cèdent et font si joliment tanguer. Les filles à l'intérieur pourtant ne sont rien, non vraiment rien, que des petits bouts de métal qui rouillent, de la chair émiettée. Les filles de l'intérieur sont fébriles et sauvages. Elles aiment à rejouer les scènes du passé. La tragédie comique de tes airs compassés. Elles aiment, elles t'aiment, tout tient en peu de lettres. Tu ne sais qui dehors souffle tous ces poèmes. Toute cette buée où les filles enfermées t'invitent à danser. Dans ton sac, tu as ce miroir rond, comme une pupille de chatte. Tu inscris en son cercle le reflet de ton demi-visage, le rouge cramoisi de ta demi-pommette, et le monde à moitié se dilate, se contracte, puis glisse à pas feutrés son velours sous l'iris. Sous le pan de l'étoffe, tu regardes perplexe des filles fêlées. Les jours où tu es triste, il y en a, elles n'y coupent pas, elles glissent d'entre tes jambes vers tes chevilles. Elles descendent en rappel les parois raides des pensées. Elles sont fines, elles savent parfaitement où se cachent les mots. Les jours où tu te sens triste, elles tombent, tu ne peux rien y faire. Elles gémissent et tombent, ou le contraire. Tu reconnais toujours leurs cris sous tes talons. Les filles au dehors s'effritent comme des feuilles mortes. Au-dedans de toi, des villes, des canaux, des réseaux s'agrègent, des flux filent, des artères dévient, des centres complexifient à la périphérie. Des strates et des strates de feuilles s'empilent. Dessinent des contours un peu flous, un peu mous à ta chair citadelle. Des filles et des filles se construisent, se déconstruisent depuis la nuit des temps. À l'intérieur, des villes meurent. Tu le sens jusque dans la pointe de tes cheveux. Ce champ de ruines sous le chantier toujours renouvelé. Les pages, qu'elles ou toi noircissent. Les filles, tu dis, habitent les cités inachevées. Sur tes papilles, ça roule, ça compte, ça énumère. Que font donc les filles à l'envers de paupières? Qui sait? Au centre de la cage, ça grouille. Les filles toujours posent l'énigme. Elles sont des sphinx sublimes, des silhouettes immobiles, marmoréennes, fatales. Elles usent des fils. Les déroulent sans fin entre ta vulve et ton vagin. Il y a là, quelque part, une pièce du puzzle. Les filles à l'intérieur sont futiles et joueuses. Elles s'amusent à cacher la découpe au hasard. Tu cherches, grinces des dents, écarquilles les yeux, tu tends l'oreille à chaque indice. Dans chaque cicatrice se cache un élément manquant. Mais tout reste illisible au fond de ta culotte, car bien que sympathique, l'encre, tout comme les filles, se carapate. Quelque chose file sur la rétine. Un trait, un mot, difficile à cerner et pourtant familier. Le frisson de la glotte sous la langue empesée. Tu ne comprends pas pourquoi, alors qu'au fond elles sont si pénétrantes, si brillantes, si spirituelles, si pleinement prolixes, pourquoi toi, tu restes là, à la surface, muette, stupide, fermée, aussi livide qu'un tableau effacé. Selon qui parle, qui espère, qui exige, qui décide, qui impose, tu poses toutes les filles bien à plat à l'intérieur. Toutes les filles sont des volcans débordant les oreilles. Toutes les filles sont des rivières en crue sur tes orteils. Elles sont le ciel d'orage pendu dans tes cheveux. Le sourire large, l'œil élastique, le sein flexible. Sous la chair molle, le cœur d'horloge sonne pour deux. Toutes les filles sont des poupées que tu emboîtes sous ta poitrine. Les filles à l'intérieur flottent dans les liquides. L'océan dilate les gorges. Elles glissent vers le bas. Elles agitent des bras, des jambes, de la tête. Leurs écailles scintillent, méduses au corps blanc transparent. Elles caressent de leurs doigts urticants la joue, les yeux et le sexe brûlant. Toutes les filles s'éteignent dans le noir, frémissement en eau trouble. À l'envers de ta chair, il y a, c'est comme ça, toujours, dans les histoires de filles, sous celles qui meurent, une autre qui revit. Extrait de Pensée maillée et Radicelle. Un jour, il faudra bien que j'érupte l'exil, que je cesse de considérer la fuite de l'île hors de peau, hors des miens, hors de mon quotidien. Il faudra bien que j'écarte des côtes les bords francs de la plaie, que je laisse le sang ou les larmes couler, ou mon cerveau, qu'importe. Que mon corps s'investisse, que je cesse de dire vissé au continent. Il faudra bien un jour enfoncer la canule que le bout d'île explose. Que je m'enfonce nu dans la mer ou l'instant, ou la répétition, qu'importe. Que le crâne se fende, que gerbe en continu la bouche et le volcan. Dans l'île, le rouge est plus rouge, le rose est plus rose. Le soleil ne fait pas plisser les yeux. Il se ramasse, s'enroule et se jette d'un bond sur les feuilles de combava, de vacoa, de badamier. Il instille son sang chaud, pourpre, parfumé. Les couleurs franches épaississent la sève et donnent ce rouge plus rouge, ce rose plus rose, qui déchire le regard d'un coup de sabre. L'œil, comme une goyave fendue, pleure des grains dorés dans une mer fuchsia. Je suis dans la voiture. L'homme est au volant. Les enfants piaillent. Sans même bouger la main, je fais descendre d'un clignement d'œil la fermeture éclair sur le côté gauche de ma poitrine. Un vieil enfant racorni déploie ses jambes et jette son regard vers l'arbre où des béliers improvisent un balai. Avant que le feu passe au vert, le gosse à la peau tannée disparaît dans les branches tordues. Je le suis. Mon enfance malingre quitte des chairs douceâtres. Elle aère sa mémoire dans l'air salé du soir. Des oiseaux jeunes et fous l'épinglent dans le noir. Au sommet de l'arbre, des nids se balancent sous le soleil rasant. La vision est brève, le feu est rouge, la voiture piaffe, juste le temps de voir des béliers amorcer une danse dans un ciel marbré de gris, de blanc, de pigments safranés. Les ailes crissent, les klaxons s'excitent, les oiseaux s'allument comme la nuit tombe. La guirlande végétale, les lumières animales, dans cet arbre feuillu, aiguisent une joie sotte. Un troupeau d'oiseaux jaunes répète Noël dans l'hiver austral. Nous sommes dans le muséum. Les enfants ne courent pas. Ils sont empêchés par les poussières dorées qui enflent. Ils ne le savent pas, mais à ce même instant, j'ai leur âge, avec le cerveau juste un peu plus encombré. Je me hisse sur la pointe des pieds pour voir les papillons épinglés sous la vitre. Le bois qui craque m'a fait rapetisser. Je suis en arrêt devant un tang. Il jette son regard quelque part dans le vide. La position mime la vie et pue la mort. Troublant ce savoir incernable qui rappelle à mon corps diminué que je ne suis plus enfant. Avoir l'apparence d'eux, ressembler à, être comme, sous la peau de la bourre. L'identité fossilisée dans la posture. J'aurais beau plisser les yeux, fixer la bête jusqu'à avoir les yeux rouges, jamais le nom n'épellera ce qu'il est. parce que la chair tannée se ratatine en italique. Parce que le tang est un temps rec. Et s'il est l'un et l'autre, son nom français ne dit rien de familier. Où est le mot? Comment appeler ce qui disparaît entre les lattes du plancher? Vais-je totalement fondre dans les terres qui m'ont un jour porté? On te dit choisis. Choisis ton camp, ta frontière, ton pays. Raye tout le reste, choisis. Pas de place pour à moitié, à demi, choisis. Gratte, arrache, la chair, la peau. Il ne restera rien qu'un peu de rouille sur la photo. Souvenir d'un temps, d'une illusoire unicité, unité. Raye, syllabe, lettre, choisis. Une langue, sans mots, propre et net. Et tant pis pour l'accro, ton dessin d'île, possible, commune, sur le cahier, tout au fond de la salle. Celui qui sait te lire peut entendre au fond du puits le ricochet, la pluie d'étoiles scintillant dans le seau, le ciel d'ici lié au ciel de là-bas, ton île fantasmée, tes rouges flamboyants, tes abysses profonds, tes océans violents. Celui qui sait te lire te boit. À l'intérieur, tu as ce réseau complexe de radicelles. À l'intérieur, il a cette architecture compliquée de racines. Et la ligne vous maintient dans cette autoplastie. Tu voudrais être un arbre, creuser des galeries, diffuser tes greffons, accueillir ces bourgeons. Tu voudrais, à défaut, rouler des yeux comme des graines de longanie. Rejoindre dans sa bouche les noyaux de cerises, bouts de noir et de blanc, recraché dans la joie, constellé d'humide de l'herbe et de jour les sous-bois. Mon main, mon zier, mon pied, toutes les gommées, m'y avance plus. Mon pied, mon zier, mon main, toutes les noires. Dans le fait noir, tu demandes à moi, qui ça la pose la colle pour où t'y fie? Qui ça la gomme à où comme ça? Mais répond Azote, la langue la gomme à moi, la langue l'efface à moi. La colle mon pot, la colle mon main sur le papier blanc, dedans son grain. Demande pas moi traduit, m'y gagnera pas. Dans mon tête, n'en a deux oiseaux. Un les blancs, l'autre les noirs. Zoti tuit tuit patin le soir. Un coup il vient, un coup il vient pas. Les deux collés y rôdent chappés. Dessus mon lève, dedans mon voix. Ni où, ni moi, il s'attrape ça. Crois pas, oiseau-là, il habite là-dedans depuis longtemps. Le nid t'est vide, le œuf t'est blanc. Dedans mon bouche, t'es sans la mort. Toute m'opposée t'es fait décor. Mais t'es fait pas semblant. Il te demande seulement qui ça. Qui ça la mettre dans mon tête que les oiseaux, le blanc, le noir, t'es gagne pas vivre ensemble. T'es gagne pas chante ensemble. T'es gagne pas emmaillé, mot effacé avec mot gommé. Qui ça? Ou même Tifi, ou même. Débrouille si votre langage n'est pas normé. Ou les. Ou même Tifi, ou même. Ne croyez pas que ces oiseaux-là habitent là depuis longtemps. Le nid était vide, les œufs étaient blancs. Dans ma bouche, cela sentait la mort. Tous les mots posés étaient comme un décor. Je ne faisais pas semblant. Je me demandais seulement qui m'avait mis dans la tête que les oiseaux, les blancs, les noirs, ne pouvaient vivre ensemble, ne pouvaient chanter ensemble, ne pouvaient emmêler le mot effacé avec le mot gommé. Qui? Toi-même, petite, toi-même. Et tant pis si ta langue n'est pas normée, tu es toi, petite, toi. Je vais lire maintenant des extraits de Tu écris des poèmes et sur la table. Tu écris des poèmes. Tu précises, tu n'écris que des poèmes. Après avoir perdu des années à tirer le récit par les cheveux, tu décides un jour d'écrire du coq à l'âne. de vider sur le billot, sans queue ni tête, sans bouche ni main, ton ventre. D'y secouer les mots dans tous les sens, à bride abattue, jusqu'à respirer sur la table l'odeur de langue coupée. Comme le poème, tu as un trou au milieu de la phrase, un cratère d'où les mots roulent, s'écoulent jusqu'aux chevilles, agrandissent jour après jour la surface de l'île, d'un littoral friable qui plonge dans la mer. Comme le poème, personne n'en a fait la cartographie. La matière est floue sous la canopée. Le poème et toi êtes deux espèces endémiques. À la réflexion, tu es en tout point identique au poème. Le poème et toi, vous êtes un peu de noir sur beaucoup de blanc. Le poème et toi, vous êtes un caillou minuscule dans la chaussure du roman. Le poème et toi, vous êtes le détail invisible sous le coup de crayon. Le poème et toi est enfermé dans une case, obligé d'inventer le poème et toi. Un genre mineur qui sort du chapeau. Une didascalie que le metteur en scène nie. Le poème et toi, vous êtes un discours inaudible sous les palabres ambiants. Vous êtes un idiome qui résiste, qui ploie, ne cède pas. Le poème et toi, vous êtes la langue étrangère dans la bouche de l'entre-soi. La langue de l'entre-soi dans la bouche étrangère. L'entre-soi de la langue dans l'étrange bouche. La langue dans la bouche, soi dans l'antre. Le poème et toi, et tu es le poème. Tes poèmes sont noirs, avec beaucoup de poils, de la chair, des sécrétions, des odeurs d'encre épaisse, des seins lourds, une langue humide, des fentes, des plis. Tes poèmes sont n'importe quelle partie de ton corps, n'importe laquelle. Une jambe, un rein, un os, n'importe laquelle, sauf la tête. Dans ton crâne, il y a un meuble. Il y a un meuble avec des cases. Sur chaque case, une étiquette. Tu ne sais quel tiroir ouvrir pour te retrouver. Tu ne te cherches pas, tu écris des poèmes. Quelques-uns t'ont mis là, dans un casier du bas, contre le bois d'ébène, au milieu de tissus sentant la naphtaline. D'autres t'ont posé ici, dans un tiroir du haut, entre des lettres mortes et des cartes postales déclinant en photo le bon vieux temps des colonies. D'autres encore te mettent dans une case vide. Tu ne dis pas un mot, tu écris des poèmes. Convoquant d'autres mains qui seront retracées, qui tu es, d'où tu viens, à qui tu appartiens, peut-être. Tu écris des poèmes quand les mots ne peuvent pas, drôle de paradoxe, dérouler clairement ta pensée vagabonde. Le poème, tu le sais, aime le désordre, les pas de côté, tous ces regards de biais qui font la terre blonde, que l'amant est sucré, que les lettres sont oblongues comme des graines de pastèque qui débordent la bouche et poussent le soleil à couler son jus rose sur ton menton râpé. Personne ne m'avait prévenu que cela arriverait d'un coup, que le sol s'ouvrirait en deux, que les montagnes surgiraient de terre, que les failles seraient profondes et la lave brûlante tout au fond de la mer, que des plantes étranges, des oiseaux inconnus, offriraient à mes lèvres une île, neuve, battue par les courants, léchée par tous les vents. Personne ne m'avait dit qu'un jour, j'ouvrirai la bouche, je plongerai la langue dans le premier baiser qui divise le monde. Mon corps scindé en deux dans le bruit magnétique du choc de ses dents contre mes dents. Personne ne m'avait dit que je serais la bûche projetée dans le volcan, que le feu me prendrait, que la terre bruisserait de mes crépitements, qu'il n'y aurait pas de cendres, que des flammes sur la mer. J'ignorais que ma chair embrasée fondrait dans le ciel bleu, qu'il ne resterait rien, qu'un ventre constellé fendu à coups de hache. Personne n'avait dit que j'engloutirais dans le même pas siècle passé et océan. Qu'il ne s'agirait pas de se laisser porter d'une côte à l'autre, mais d'être la houle, le vent. Personne ne m'avait dit que j'aurais à l'intérieur le flux, le reflux, l'écume de la vague, le charbon des grands fonds. Personne ne dit jamais que l'enjambé ramène au commencement. L'écartement des cuisses sous la coulée qui recouvre le sable. Personne n'avait dit que partir n'était pas se vêtir d'une autre peau. Qu'un jour ou l'autre, la mue tomberait au sol. Que je resterais rouge et folle cardinale frétillant. On ne m'avait pas dit que j'abritais dans la cage un oiseau. Un claquement de fouet à l'envers de barreau. Un va-t-il-vient de mots dans la contraction nue du passereau. Personne ne dit que la joie est à la hauteur de la désespérance, de la course sans fin, jambes nues à flanc de couteau. L'île est une blessure ronde. Mon ventre, mon sexe coupent en leur jardin des racines et des reins. On ne m'avait pas dit l'apaisement boisé du jouir, la circularité terreuse du désir. Dans le nœud, au fond de l'œil, un cri marron suinte son miel. Personne ne dit que le mot est un os qui fort. L'infection creuse son trou, l'écorchure du genou, l'escarre dans le cou. Personne ne soulève sous l'amoncellement d'os les charniers, dans les odeurs putrides, la boue, les vieilles os. Qui évoque seulement cette maladie-là qui rampe entre les tempes, la page noire, des os surnuméraires courant dans la poussière. Personne ne dit, personne n'avait, personne à bon dos. Je répète en boucle le mot. Dans le miroir, personne, la même, personne ne sait recommencer, effacer le tableau, réécrire, mettre sous parenthèse la petite effusion de grandes jutées lyriques. Personne ne dit qu'à 17 ans, le monde est rouge, et les mâchoires s'ouvrent, la langue pointue lappe, que d'un coup d'aile, on mange le ciel au-dessus, la terre en dedans. Personne n'avertit seulement que rien ne dure, qu'une poignée d'années après, à peine, pèse les lendemains de cuite au creux de l'estomac. Donc là, je vais lire quelques extraits de Feu de tout bois et de User le bleu. Quotidien. Toute la journée, j'avance avec des cailloux dans l'estomac. Lorsque j'étais petite, les cailloux aussi étaient petits. Je jouais aux osselets la main dans l'œsophage. Nous étions très nombreux à porter des rochers. Nous les escaladions de l'intérieur de l'école, de la cour, de nos têtes. Et c'était très joyeux. Car il y avait la mer, le vent, beaucoup de soleil. Au sommet, un drapeau. Du crépon chamarré, de l'enfance. Il y avait surtout, cela faisait la différence, l'ignorance de ce qui se vivait. Je. D'ailleurs, les cailloux ne s'appelaient pas cailloux. On disait bille, calot, boulard, galaxie, œil de dragon. On disait œil de chat, tourbillon, bille chinoise. On disait tout ça. Nos bouches étaient petites. Nos yeux immenses, on pensait loin. Sommeil. Quand ils dorment, les enfants ressemblent à des cadavres que la rigidité aurait épargnés. Leur bouche est molle, leur peau est molle, le drap est mou, leur corps démantibulé. Toute la pièce coule dans le silence. Mon ventre est une tombe vide, la mort, un vieux chat pressé, qui passe, passe et repasse sur la corniche d'un cil. Quand je cligne des yeux, il retombe sur ses quatre pattes, entre mes jambes, ses brous et fils. Je secoue les rideaux, les enfants ressuscitent, le jour va. Éphéméride. Aujourd'hui, c'est la fête du couteau. C'est marqué en rouge à côté de la date. Il y a la fête des mères, des pères, celle de la jupe, du voile. Il y a aussi un jour de l'amour, des morts, sans portable, sans voiture, sans électricité. La journée du lard ou du cochon. Des saints, du saint des saints, des revendications, des recommandations, de l'économie triomphante. Du brame, des drames, des femmes, des hommes. Non, pas des hommes. Question d'excroissance, la case est trop petite. Vivre au fond n'est pas bien compliqué. Il suffit de s'en tenir aux mots du jour. Composer, décomposer, recomposer, une croix après l'autre, l'empilement des faits. Habitude. Dans la rue, parfois, je sens ce couteau contre ma cuisse. Dans ma famille, toutes les filles portent une lame à même la peau. De longs poignards ou minces couteaux-là. C'est qu'une menace pèse comme une malédiction sur toutes les filles sous leurs jupons. Quelque chose comme une main sournoise qui appuie là où ça fait mal. Dans la rue, souvent, on sent comme des doigts pesés et un mince filet coulé sur la côte du volcan. Caresse. La dernière fois que les enfants ont vu grand-père, il ressemblait à un vieil arbre allongé dans le lit. C'était une vision étrange. On devinait sous le drap les torsions de ses branches, son odeur de terre humide et le bruit des oiseaux. Ça faisait de tout petit piou-piou quand il ouvrait la bouche. Les enfants, intrigués par les battements d'ailes, collaient leur corps de lait contre mon corps de mots. Nous savions tous les trois qu'il nous faudrait bientôt traverser la forêt. Et ils n'avaient pas peur, et ils ne tremblaient pas. Ils attendaient seulement le bon moment pour poser leurs lèvres sur l'écorce. Huître. Quand nous mangeons de la langue, quelquefois, banale, plate, la bouche fuit. Mon caf de l'eau, mon cafrine d'offée. Ce ne sont que des mots, pourtant, les enfants s'y accrochent comme à l'eau du ruisseau. C'est qu'ils ont eu 5840 jours pour expérimenter différentes techniques de pêche. Et ils se dressent sur la butte de mes joues, le regard concentré, impavide, immobile, à tenter à main nue, à la lance, à la ligne, de saisir une à une toutes les perles cachées entre mes valves. Puzzle. Entre la graisse et l'os, des lettres sans dessus dessous, des voyelles, des consonnes, dont on entend les rires sourds en filigrane. On les écoute sous la peau, s'envoyer en l'air, pendant que nous nous tenons bien droit les pieds sur terre. On les entend se rouler dans la fange, jouir, faire sortir de nos ventres une encre épaisse. On les voit tourbillonner comme des feuilles blondes, profiter d'un coup de vent pour aller voir ailleurs. Si j'y suis, si tu y es, si nous y sommes, y sommes-nous pour de vrai? Comment ont-elles donc fait pour nous réassembler? Marathon. Arrivé à un certain niveau de la course, le souffle manque. Nous n'avons plus à notre disposition que quelques mots. 100, 500. Certains pensent que c'est peu, mais c'est déjà beaucoup vu l'étroitesse du couloir. Nous avançons, l'un derrière l'autre, dans nos petits shorts bleus, nos débardeurs orange, un élastique rouge dans les cheveux, un filet de sueur sous les bras, une appréhension sourde au creux des reins. Nous avançons, chacun craignant de l'autre, l'anarchie du mouvement, les membres désarticulés, crispés par l'urée, qui nous freinent, entravent, rouge, orange, bleu, encore des mots trop grands. On dit des phrases idiotes parfois. J'avais dit 4 mois. Notre histoire va durer 4 mois. Pas un jour de plus. Nous voilà 20 ans après et je suis toujours là à mêler mes aigreurs à ta salive. Et quoi ? J'avais dit 4 mois parce que j'avais 20 ans, la superbe, le cul ferme, parce que l'amour brûlait comme un feu de Bengale, parce que j'abhorrais le tiédasse à peu près. D'ailleurs, nous n'avions pas vraiment 20 ans. Il fallait que tu oses, que je fasse semblant, qu'il y ait une raison à mon fichu aplomb. Je traînais à l'époque de vieilles casseroles. Un amour et un autre, et puis encore un autre. Ça en faisait des traces au fond de la culotte. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi sert le bilan. Le besoin de refaire le chemin à l'envers. J'ai eu 4 mois, quelques années à peine, pour savoir où poser mon front contre ta poigne. Juste un tour de cadran pour peindre nos cheveux. Je respire les humeurs qui cognent, nos deux cœurs irisés blottis à la fenêtre. Je te regarde. Dehors, il pleut. On dit des phrases idiotes parfois, mais on s'en remet. À 18 ans, on a la bouche à vide. On hurle dans les couloirs déserts que l'on est de nulle part. On ne parle pas leurs mots, on ne danse pas leurs danses, on ne voit pas la peau. La vie est un fruit vert qui agace les dents. Et on mord des chairs tendres sur des matelas mous. Dans des chambres exiguës, on jouit, on refait le monde. Dans la rue, dans les lits, on crie « Fuck la haine, fuck la mort » et « Vive la vie ». On doit flamber par les deux bouts que le sexe et la tête éclatent comme un fruit sous la poussée du jour. Cette grenade qui offre à la langue sa graine translucide. Petite hostie à faire fondre lentement dans une palpitation. À 40 ans, on croit avoir grandi. On dit des phrases idiotes. Le cœur seul continue de soubresauter. Sur le drap poissent la sueur et la mélancolie, dont le goût de sel fait monter des yeux les larmes, la fatigue et la résignation. Des mots vides et pleins à semer de poèmes, à remplir de silence et d'incompréhension. Encore des mots trop grands dans lesquels se noyer, dans lesquels agiter des bras, chercher à atteindre le bord et ne rien faire, se regarder couler. Aligner sans faillir des infinitifs et définitifs, redire les phrases idiotes. Mais le temps passe, on s'en remet. Futur compliqué. Je me demande si un matin très tôt, deux types en uniforme toqueront à ma porte, s'ils sortiront de suite les menottes, s'ils me réciteront la liste de mes droits avant de me plaquer au sol sans plus de préambule. Peut-être qu'ils m'ouvriront la bouche avec délicatesse pour chercher les fragments d'embryons sous mes dents. Peut-être qu'ils larderont mon matelas gentiment pour trouver sous la bourre mes vieilles illusions. Peut-être qu'ils auront dans leur poche un scanner pour sonder en douceur ma tête pleine de verre. Ou peut-être qu'ils ne feront rien que saluer poliment, que je me jetterai à leurs pieds en pleurant, honteuse de mes crimes, avouant, annonçant mes maux, mes lâchetés cachées sous le plancher. Futur simple. Un jour, à la place des yeux, à la place des mains, à la place de la bouche, nous aurons des greffons solidement scellés, des écrans, des plaques de verre, propres, lisses, où nous pourrons jouir, où rien, non rien ne viendra perturber l'écoulement des flux. Nous serons chacun d'un côté ou de l'autre vibrants et totalement anesthésiés. Nous ferons des enfants comme des avatars, sans glaire, sans hurlement. Les nourrirons de likes, de smiley, et pendront leurs sourires sur nos réseaux sociaux. Et personne, non, personne ne pourra dire alors que notre vie est vide, que dans le fauteuil, que devant la table, que derrière l'écran, il n'y a rien, qu'un courant d'air qui passe. Car un jour, tu le sais, tout finit par passer. Nous mourrons, mon amour, nous mourrons. C'est dans l'ordre des choses, mais n'aie pas peur. Il n'y aura pas d'odeur. Les fleurs seront virtuelles, nos larmes aussi. Nous serons, pour une fois, de pixels et de billes, complètement, furieusement, pleinement assouvis. Vieux reste. Peut-être que ma langue pauvre finira comme une peau d'orange sous un buffet normand ou un buffet sans nom, ces meubles remplaçables de lieux interchangeables que l'on fait durer ou l'on peut oublier, toutes ces langues pauvres, dépiautées, dépecées, qui ne disent plus rien, qui ne se parlent pas, un objet et rien d'autre, figé, sans valeur. Peut-être que ma langue pauvre, pauvre langue, finira dans une bouche, sous le flux de salive, par encore palpiter. Lingua povera. Peut-être que ma langue pauvre arrivera à mettre en branle, à faire surgir une autre histoire, un autre discours, récit escamoté par la scansion criarde de nos faits hystériques, par nos cris, par nos larmes et tous nos borborygmes. Peut-être que mon vocabulaire, limité par la chair, finira par trouver les bréchures, dans ton cœur mécanique la fracture, pour jouer, dire, être, dans un jeu poétique, un mot qui pèse, on ne sait trop comment. Bâtard. Quand l'enfant bancal est né, je n'ai pas su quoi en faire. Je l'avais porté longtemps pourtant dans une poche, sur le flanc droit ou le flanc gauche. L'enfant ne trouvait pas sa place. Pendant des mois, peut-être même des années, tu regardais mon corps se déformer. J'observais ton regard. Mon hernie entre nous était la douleur vive. Quand l'enfant est né, je n'ai pas su quoi dire, pas su quoi lui dire, comment même le nommer. Je l'ai posé sur la table, ce meuble qui nous sépare matin et soir. Je l'ai posé, l'ai fait rouler sous ma paume et étudier chacune de ses larmes. Il pleurait sans un bruit, marqué de noir les fibres de bois sous mon crâne. Je lisais, autour de nous, tout écrit. Tu ne disais rien. Cela ne disait rien qui vaille. Je lisais son nom sur la table. Poésie.
Poésie, donc de Muriel Modéli, que vous pourrez applaudir jeudi 19 octobre à 18h30 à la Maison de l'Occitanie, l'Oustal, 20 rue Malcousinat, je crois, 11 rue Malcousinat à Toulouse. Alors, d'abord, merci Muriel Modéli. Nous avons encore quelques minutes, donc nous allons en profiter de ces quelques minutes, de ces deux, trois minutes, me dit-on, trois minutes, d'abord pour saluer cet exploit, c'est un véritable récital qu'elle nous a offert ici pour Tempo Poème, récital qui sera accessible d'une façon pérenne sur le site lespoètessansaccent.site. Donc là, nous avons un morceau d'archive hein, pour le futur, où nous aurons Muriel Modéli. Il y avait déjà une émission en 2020, mais là, il y aura une émission également en 2023 du Tempo Poème de Muriel Modéli. En t'écoutant, j'ai ressenti une diction de la poésie qui faisait que le texte était immédiatement accessible. Et ça, c'est rarissime, je crois, de pouvoir avoir accès au sens du poème presque immédiatement, une espèce d'immédiateté dans la compréhension du texte en poésie sans avoir à le lire. Je crois que c'est ce qui peut-être
caractérise au mieux ce que tu fais, ce que tu écris. C'est-à-dire ce quotidien dont tu rends compte à ta façon, c'est-à-dire à la façon d'une poète, hein, et parce que tu as expliqué que tu avais essayé, mais qu'en définitive, c'était que la forme du poème qui te permettait d'arriver à dire ce que tu avais besoin de dire. Et puis, ce que l'on ressent dans tous tes poèmes, c'est cette nécessité d'avoir à dire ce que tu dis. Il n'y a rien, me semble-t-il, de véritablement gratuit, d'ornemental, d'une recherche quelconque, d'une esthétique. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est une parole d'abord terriblement libérée, une parole libre, hein, une parole de femme libre, et puis qui était dans la nécessité de dire ce qu'elle dit dans le poème, et que le poème lui permettait d'avoir accès à cette liberté. Et la liberté, en définitive, c'est ce qui enveloppe totalement tous ces textes, et qui nous enveloppe à nous, qui nous donne cette liberté que tu t'es donnée à toi-même et que généreusement, par le poème, tu nous donnes à nous. Voilà. Donc, merci beaucoup, Muriel Modéli. Il y a, on a vu, cette poésie qui part du quotidien, c'est-à-dire que il n'y a aucun sujet de la vie, en définitive, qui échappe à ton regard quand tu as la nécessité de parler sur ce que tu veux parler. C'est, ça va de collègues de bureau. Je me souviens d'un texte où tu parles d'une collègue de bureau qui a eu un chagrin.
Oui.
Et là, tu la regardes dans les yeux et tu parles du bleu de ses yeux. Que, bon, toi aussi, tu vas te noyer dans ce bleu des yeux. Mais il y a cette compassion et cet élan vers l'autre que tu dis très bien en quelques vers. Voilà. Merci beaucoup, Marie.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Une grande voix de la poésie encore à Toulouse, vraiment Toulouse, capitale de la poésie. Merci, Francis Pornon. Et donc rendez-vous le jeudi 19 octobre à 18h30, 11 rue Malcousinat, Maison de la Poésie, et sur le site lespoètes.site ensuite pour réécouter cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.